revenir à nos capes à nous et nos capuchons, puisque c'est le même terme. Évidemment, si on remonte un peu les siècles, on est au Moyen-Âge, un petit peu avant, ce sont évidemment les moines, les prêtres qui vont s'en occuper aussi, d'avoir une cape, un capuchon pour pouvoir se protéger. Déjà, on se couvre pour prier, on se découvre pendant l'office ou au moment de communier ou au moment de se mettre à genoux, mais on est couvert pour se protéger du froid, parce que dans les églises, il n'y a pas de chauffage, parce que c'est énorme, dans les couvents, parce qu'on prie des heures dehors, on fait des rondes dans les couvents. Et puis aussi, simplement, parce qu'on n'a pas une autre façon de fermer un vêtement autour du visage, et puis on voit le visage presque à nu quand on l'enlève, donc à l'intérieur. Et ce capuchon-là, il va faire des émules tout au long du temps, à peu près, comme vous dites, du 17-18e siècle, là on est un peu avec les films de Cappadoce, jusque dans les années 20, où tout d'un coup, le manteau va prendre le relais, on va prendre un manteau à cause de l'armée, à cause des guerres. Les campagnes de Napoléon vont faire des manteaux incroyables pour couvrir. Vous voyez aussi Napoléon qui est déjà en manteau. C'est les premières fois qu'on voit des moins de capes parce que c'est trop encombrant, parce que c'est lourd. Et puis on va rouler le manteau plus petit sur le sac du militaire. Donc c'est des millions d'hommes en Europe qui auront des manteaux roulés sur les sacs de l'armée. Et tout à coup, dans le public, eh bien, ce sont des hommes et des femmes qui ont encore des vêtements amples, comme les sœurs, les nonnes, les sœurs gardes-malades qui vont porter. Nous avons encore l'armée du salut qui a ses capes jusque dans les années 80, on en voit encore quand vous allez dans les grandes villes, les écouter le soir de Noël chanter dehors. La cape fait partie aussi de cette espèce de... C'est enrobant, ces figurines tristes des années 20, 30, où on voit un papa ou un grand-papa avec deux enfants, comme ça, qui protège, et la cape, ils sont sous son aile, sous son bras, comme une aile d'oiseau. C'est protégeant, en fait. C'est quelque chose de chaud, de rond. Et puis la capuche elle-même, puisqu'on c'est le thème du jour, on parle de capuchon et de capuche, on va de petit à petit le lier aussi, avec raison, avec des métiers graves. Rappelez-vous quand même, celui qui met un capuchon, c'est celui qui va vous égorger. C'est quand même le tueur, c'est quand même à la Révolution française, le monsieur qui va faire marcher la guillotine, qui aura un capuchon pour qu'on ne le voit pas, que vous ne voyez pas sa tête. Et c'est aussi le boucher dans les années 20-30, l'écarisseur, le type qui porte les morceaux de viande. Ils ont très souvent des grands manteaux blancs avec une capuche blanche et puis une cotte de maille pour porter les kilos de viande sur l'épaule. Plus loin, on va dire, ce sera quelqu'un d'un peu mauvais garçon ou avec un esprit un peu bas de gamme, un peu dangereux, un peu délicat. Donc ce capuchon-là, il sera pour couvrir qu'on ne voit pas la tête, il s'en protège. Et gentiment, la capuche qui apparaît pour le sport, les premiers Rocky commençaient à avoir des vêtements, des survêtements de sport avec une capuche, c'est américain, c'est pour se protéger du froid, c'est quand on court, c'est avoir chaud autour du cou. Mais aussi, ce sera très vite repris par l'esprit mauvais garçon. Souvenez-vous, par exemple, il y a une vingtaine d'années, quand les grandes équipes de football comme la France est arrivée dans les aéroports, on a demandé aux gens de ne plus porter le capuchon puisque c'était très dangereux, puisqu'on ne voit pas leur tête. Et on en est arrivé à ce que les footballeurs aient des costumes comme les banquiers quand ils sortent du bus et puis qu'ils sont vainqueurs sur les Champs-Élysées.